Voix Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Sommet sur le climat dimanche à Brazzaville, une dizaine de chefs d'État présents à la réunion ont invité les bailleurs de fonds à tenir leurs promesses en finançant les projets de préservation du bassin du Congo. Ces leaders se sont aussi engagés dans un document à mener des politiques basées sur le développement durable. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngousso.
Le sommet sur le climat qui s'est tenu hier à Brazzaville a débouché sur la signature d'un accord instituant désormais la Commission climat du bassin du Congo. La signature apposée par les chefs d'État prouve leur engagement à préserver le massif forestier du bassin du Congo. Pour le roi du Maroc, Mohamed VI, parrain des initiatives africaines à la suite de la COP22 de Marrakech, le défi écologique est devenu une priorité. Hôte du sommet, Denis Sassou Nguesso a invité les bailleurs de fonds internationaux à tenir leurs engagements en finançant les projets de développement dans les bassins du Congo. La société civile locale et certains opérateurs économiques encore épargnés par la crise se sont dit prêts à investir dans les projets de compensation qui seront développés dans le bassin du Congo. Nguela Ngousso, Brazzaville, VOA Afrique.
Le Tchad vers la 4e République. Les députés tchadiens sont appelés à adopter un projet de révision de la Constitution ce lundi. La nouvelle charte fondamentale, validée par le gouvernement, met en place un régime présidentiel et renforce les pouvoirs du président Idriss Déby Itno. Les précisions de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Les députés de l'opposition refusent de participer à ce qu'ils qualifient d'entreprise de destruction nationale. Il faut avoir 45 ans à partir de 2021 pour prétendre diriger le Tchad. Nadio Kaina, porte-parole du mouvement citoyen INA, se dit surpris et rejette cette constitution.
Pour nous, cela vise clairement à éliminer certains candidats qui sont potentiellement dangereux pour diriger mon place.
Pour Grace Elta, membre du projet pour l'alternance crédible au Tchad, le président Déby est un homme égoïste.
Un homme égoïste qui veut faire de ce pouvoir une dynastie.
Ali Gabriel Golor, porte-parole de la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, estime que cette modification de la Constitution par voie parlementaire voulue par le président Déby et ses courtisans est une guerre livrée contre le peuple tchadien.
Déby cherche absolument par tous les moyens à dresser les nordistes contre les sudistes. C'est l'une de ses préoccupations, il faut le dire.
Le président de l'Alliance socialiste pour le renouveau, Djarma Baltazar, trouve normale cette décision.
45 ans à compter de 2020. Est raisonnable puisque beaucoup ont triché en se falsifiant les pièces d'état civil pour réduire leur âge pour se dire trop jeunes et que maintenant ils sont tombés dans leur propre piège, ils peuvent que s'en prendre à eux.
Convaincu que le référendum est la voie appropriée d'adoption pour toute nouvelle constitution, les députés de l'opposition réaffirment leur décision de boycotter la séance où sera voté ou non le projet de la constitution d'Idriss Déby Itno. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Génocide de 1994 au Rwanda, deux anciens bourgmestres des maires rwandais sont condamnés en 2016 à la prison à vie pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Kabarondo en avril 1994, seront de retour mercredi devant les assises de Paris pour leur procès en appel. Octavien Genzi, 60 ans, et Tito Baraira, 67 ans, avaient été jugés coupables de crimes contre l'humanité et génocide pour une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires en application d'un plan concerté tendant à la destruction du groupe ethnique Tutsi. Arrêtés en France, ils y ont été jugés en vertu de la compétence universelle des juridictions françaises pour les crimes les plus graves. À Madagascar, le président malgache Ir Ratsaoua Mampian a rejeté catégoriquement hier les appels à la démission formulés par l'opposition. Depuis 8 jours, les opposants manifestent dans la capitale malgache contre les nouvelles lois électorales. Jean-Roger Bion.
Je suis président par la volonté du peuple malgache. Il y a des millions de personnes qui ont voté pour moi. C'est vraiment trahir cette volonté que de démissionner, a déclaré hier le président malgache. Il n'a pas annoncé s'il va briguer un second mandat à la fin de l'année. Une nouvelle manifestation de l'opposition est prévue aujourd'hui. Il y a une semaine, une première marche interdite par les autorités avait dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Au moins 2 personnes ont été tuées. Les opposants dénoncent de nouvelles lois électorales et ont saisi la haute cour constitutionnelle. Les anciens présidents Marc Ravalomanana et André Rajoelina, 2 anciens ennemis, font cause commune maintenant contre le régime. Ils ont déjà laissé entendre qu'ils vont se lancer dans la bataille. L'ONU a dépêché sur place un émissaire, le Sénégalais Abdoulaye Batili, qui a pour mission de tout faire pour éviter une nouvelle crise sur la grande île.
Toujours dans la région de l'océan Indien, aux Comores, le président comorien Azali Assoumani envisage d'organiser une élection présidentielle anticipée en 2019 au lieu de 2021. En cas de victoire du oui au référendum sur la réforme constitutionnelle qui doit se tenir en juillet. C'est ce qu'a indiqué ce lundi un de ses conseillers. Le chef de l'État comorien a indiqué qu'il serait lui-même candidat.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Niger, intensification de la crise scolaire et universitaire. Du fait de la persistance de la grève illimitée des élèves et étudiants pour exiger de meilleures conditions de vie et d'études, le gouvernement nigérien menace maintenant de fermer les cités et restaurants des universités publiques du pays ce lundi. Les détails avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
C'est un communiqué sous forme d'ultimatum que le gouvernement a rendu public alors que le mot d'ordre de grève illimitée lancé par la structure nationale des scolaires se poursuit. Si ce lundi à 17h temps universel, les étudiants ne reprennent pas les cours, les cités et restaurants des 8 universités publiques du pays seront fermés. En réponse à cette intention annoncée, la structure nationale des scolaires a demandé à tous les élèves candidats au brevet d'études du premier cycle de boycotter les épreuves sportives de cet examen qui débute ce lundi, signe de la radicalisation des positions de part et d'autre, alors que plusieurs voix s'élèvent, les parents d'élèves et étudiants notamment, pour appeler à un dialogue. Près de 250 scolaires ont été arrêtés depuis le début de ce bras de fer, dont les principales causes sont l'exigence des étudiants du paiement de leur bourse et la réhabilitation de 5 de leurs camarades exclus en mars dernier par le conseil de l'université. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA, Afrique.
La lutte contre Boko Haram au Sahel, une opération militaire d'envergure, est en cours dans le bassin du lac Tchad pour débarrasser la zone des résidus de Boko Haram. C'est ce qu'a annoncé dimanche soir le ministre nigérien de la Défense. Une fois terminée, cette opération permettra également d'installer des systèmes de sécurité et de favoriser le retour de milliers de personnes ayant fui depuis 2015 les îles du lac Tchad, a souligné le ministre Kala Moutari sur la télévision privée Ténéré de Niamey. Bien que totalement affaibli, le groupe djihadiste nigérian Boko Haram représente néanmoins une menace réelle, a estimé le ministre, sans donner de précision sur le début et la fin des opérations, ni sur les contingents qui y participent. Au Mali, une soixantaine de partis politiques et associations de l'opposition malienne ont formé dimanche à Bamako une coalition pour réaliser l'alternance et le changement lors de l'élection présidentielle du 29 juillet après 5 ans de mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le manifeste signé à cette occasion par les participants qualifie cette alternance d'impératif de survie et de sécurité nationale. Parmi les membres de la nouvelle coalition, Soumaïla Cissé, chef du principal parti d'opposition, l'opposant Thié Bilé Dramé, ainsi que plusieurs candidats déclarés à l'élection présidentielle malienne. Le président nigérien Muhammadu Buhari sera reçu aujourd'hui par son homologue américain Donald Trump pour une visite axée sur les problèmes de sécurité et d'économie. Les précisions avec Idriss Fall.
Le président Muhammadu Buhari sera le premier leader africain reçu à la Maison-Blanche sous l'administration Trump. Les discussions entre les deux hommes porteront sur la lutte contre le terrorisme, l'insécurité, le développement économique et démocratique au Nigeria. Peu après son arrivée au pouvoir en 2015, M. Buhari avait reproché au président Barack Obama d'avoir refusé de vendre des armes à Abuja pour lutter contre Boko Haram. Prenant le contre-pied, l'administration Trump a autorisé la vente au Nigeria d'avions Super Tucano d'une valeur de 496 millions de dollars, des appareils de surveillance et de soutien tactique qui doivent être livrés en 2020. Aussi, M. Buhari, 75 ans, qui cherche à être réélu à la présidence en février 2019, va sans doute souligner son engagement envers la démocratie dans son pays.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.